Bonsoir, comment allez-vous? Vous avez entendu, le prix Nobel de physique a été attribué cette année à l'expérience LIGO. C'est l'instrument qui a repéré d'étranges oscillations venues de l'espace, un peu comme les ondulations à la surface de l'eau provoquées par le lancement d'un caillou. Sauf que là, le caillou, c'est une quantité colossale d'énergie équivalente à plusieurs fois la masse du Soleil, lancée entre guillemets par deux trous noirs géants, le tout à 1 milliard d'années-lumière de la Terre. Cherchez pas, on peut pas se rendre compte, ça fait une trotte. Les hommes et les femmes qui ont mené ces travaux sont un millier, ils y travaillent depuis 40 ans. Les meneurs sont Rainer Weiss, le plus mature, il a reçu la moitié du prix Nobel. Kip Thorne et Barry Barish, qui ont 8 ans et 4 ans de moins que lui, se sont partagés la deuxième moitié. Kip Thorne et Barry Barish ont respectivement 77 et 81 ans. Rainer Weiss, lui, a 85 ans. Bravo les gars, vive la science, vive la vieillesse.
Bonjour, c'est Adélaïde, j'ai 8 ans et je voudrais savoir quelle est la différence entre une étoile et une planète et est-ce qu'une étoile peut devenir une planète? Merci de me répondre, au revoir.
C'est André Braille qui va te répondre, Adélaïde. André Braille, astronome. Quelle est cette différence, André Braille?
Ah, c'est une très très bonne question, Adélaïde. Parce que finalement, je constate que beaucoup de gens ignorent la réponse.
Mais plein.
Même des gens qui ne manquent pas de culture.
Plein.
Et c'est fondamental, parce que c'est toute notre vie qui est derrière cela. Alors qu'est-ce que c'est qu'une étoile? Une étoile, c'est un objet qui est une boule de gaz au centre de laquelle se produisent des réactions thermonucléaires, on transforme l'hydrogène en hélium, l'hélium en carbone, le carbone en oxygène, et tous les atomes dont nous sommes constitués dans notre corps ont un jour été fabriqués par une étoile. Moi, quand on me demande quel âge j'ai, je dis que mon âge est compris entre 5 et 12 milliards d'années, âge auquel mes atomes ont été fabriqués. Le reste, c'est ma vie privée, ça regarde personne. Nous sommes les enfants des étoiles. Les étoiles fabriquent des atomes. Alors, c'est ça, les grosses étoiles. Et puis, les petites étoiles donnent de la chaleur pendant très longtemps. Et donc, une étoile, c'est une usine à fabriquer des atomes parce qu'il y a des réactions nucléaire au centre. Mais pour être étoile, il faut une masse suffisante. Si vous avez une petite masse, c'est un caillou, c'est un rocher, ça ne fait rien du tout. Et si vous avez une trop grande masse, par contre, l'énergie est tellement considérable, l'objet explose. Donc pour être étoile, il faut être, disons, avoir plus qu'un dixième de la masse du Soleil et moins que 100 fois la masse du Soleil. Donc tout objet qui est entre un dixième de la masse du Soleil et 100 fois la masse du Soleil est une étoile. Je rappelle que le Soleil, c'est 1 million de fois la masse de la Terre. Voilà, donc on est étoile. Par contre, une planète, c'est très différent. Une planète, c'est soit un corps qui est couvert d'un océan, soit un corps qui a une croûte solide, soit un corps qui est aussi une boule de gaz. Exemple, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune. Mais au centre duquel, il n'y a pas d'exemple nucléaire, qui a un corps solide, etc. Et pour être planète, il faut être assez gros. Parce que si on est tout petit, c'est un caillou, c'est un rocher, c'est un astéroïde, c'est un corps irrégulier. Qui est, comme on dit, c'est un patatoïde, donc il a une forme irrégulière. Et pour être planète, il faut être en gros sphérique. Et pour être sphérique, il ne faut pas que les montagnes soient plus grandes que le rayon. Et on calcule, on trouve assez facilement que pour une planète, il faut au moins avoir 500 km de dimension, de diamètre. Et par contre, il ne faut pas être trop gros, parce que si on est trop gros, il se passe des phénomènes étonnants, alors que la physique appelle, la matière dégénérée, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Autrement dit, on ne peut être planète que si on a moins de 13 fois la masse de Jupiter. Donc Jupiter, c'est 100 fois la masse de la Terre, c'est 1/100 de la masse du Soleil, donc tout corps qui a moins 1/100 de la masse du Soleil, c'est une planète. Tout corps qui est entre 1/100 et 1/10, c'est ce qu'on appelle une naine brune sans cas très particulier. Et tout ce corps qui a plus d'un dixième de la masse du Soleil, c'est une étoile. Et les planètes sont nécessaires pour que la vie s'y développe, c'est comme ça que la vie s'est développée sur Terre. Les étoiles sont nécessaires pour que les atomes soient fabriqués, les étoiles sont nécessaires pour que la chaleur constante nous vienne. Et cette distinction est fondamentale entre planète et étoile, puisque c'est notre vie, c'est notre histoire, c'est notre culture. Et ne les mélangeons pas. Et nous savons bien entendu que les planètes n'ont aucune influence sur le futur d'un homme, comme certains, je dirais, escrocs, veulent le prétendre. Mais c'est un autre sujet.
Ah, il n'aimait pas l'astrologie, André Braille. Il était astrophysicien. Il est mort le 15 mai 2016 à Paris. On lui doit la co-découverte des anneaux de Neptune. Dans Les Petits Bateaux, ce soir, nous évoquerons la couleur noire. Oh là, pas si simple. Nous saurons pourquoi le cœur des enfants bat plus vite que celui des adultes et ce qu'il en est exactement des requins et de la frousse qu'ils nous inspirent. Enfin, François Sarano, lui, en a absolument pas peur. Toutes ces questions, comme celle de Camille, ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 9 ans et demi. Je voudrais savoir pourquoi Louis XIV ne se lavait pas, alors que bien longtemps avant lui, les Romains, eux, se lavaient beaucoup.
Mathieu Davignat, vous êtes historien, directeur scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles.
Oui, alors c'est une question effectivement qui est très importante, l'hygiène à la cour, puisqu'on a cette image d'un Versailles sale où tous les courtisans s'oubliaient derrière les rideaux, derrière
c'est
les corridors. Et donc, c'est vrai que cette image est un petit peu fallacieuse et fausse, puisqu'elle naît en fait plutôt au XIXe siècle, où on est dans le grand siècle de l'hygiène avec Pasteur et qui commence à vraiment établir des grands règlements de l'hygiène tels qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Alors évidemment, au XIXe siècle, il y a eu la Révolution française et donc on critique tout ce qui s'est passé sous l'Ancien Régime et particulièrement cette hygiène. Alors, il y avait de la saleté à Versailles, il faut pas se voiler la face, il y avait vraiment de la saleté, mais en fait, on avait peur de l'eau. À l'époque de Louis XIV, les médecins préconisaient de prendre des bains uniquement pour se soigner, c'est-à-dire dans un but prophylactique, c'est-à-dire dans un but médical.
Donc avec dans l'eau des herbes ou des produits
Voilà, avec des produits et surtout sous contrôle médical, c'est-à-dire qu'on faisait bien bouillir l'eau parce qu'en fait, on imaginait que l'eau, à raison d'ailleurs, s'infiltrait dans les pores de la peau et transmettait les maladies. Donc Louis XIV, il avait évidemment pas très envie de prendre des bains, même si dans sa jeunesse, il a pris beaucoup de bains de rivière, il s'est lavé. Et en fait, à l'époque, on préférait ce qu'on appelle la toilette sèche, c'est-à-dire qu'il était frotté avec une serviette humide tous les matins ou tous les soirs, ou à chaque fois qu'il faisait un peu de sport, parce qu'il faisait ce qu'on appelle le jeu de paume, qui est l'ancêtre du tennis. Et il était frotté à l'alcool avec des linges humides. Et il prenait quand même des bains de temps en temps, mais on sait qu'il appréciait pas beaucoup les bains de chambre. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les sources, on voit qu'il n'a pas pris un seul bain dans sa vie, il en a pris plusieurs. Et on roulait une baignoire dans sa chambre, on faisait chauffer, on mettait ce qu'on appelle des onguents, c'est-à-dire des parfums. Et Louis XIV a pris des bains. Voilà.
Mais dites-moi, Mathieu Davignan, on le frottait avec un linge humide. Alors, oui. Le dos, les omoplates, on imagine, mais entre les fesses et les doigts de pied et tout ça,
on a très peu d'informations sur la toilette intime, mais on sait qu'il devait être lavé pareillement. Alors, tout ça était évidemment pas sous l'œil des courtisans, ça se faisait avec ses valets de chambre qui l'installaient sur son lit. Alors on dit qu'on le frottait, donc on peut imaginer qu'on le frottait partout, entre les pieds, entre les fesses, etc.
C'est un petit peu l'ancêtre de la lingette, en fait, qu'utilisait Louis XIV. Mathieu Davignan a écrit Le Versailles de Louis XIV, édité chez Perrin.
Maybe you're crazy.
Charles Barclay et c'était Crazy.
Les petits bateaux sur France Inter.
François Sarano est docteur en océanographie et plongeur professionnel.
Je m'appelle Nina, j'ai 5 ans et je voudrais savoir pourquoi les requins sont méchants.
Non, les requins ne sont pas méchants. Il n'y a que nous, les hommes, qui sont méchants. Parce que la méchanceté, c'est une volonté de faire mal, une volonté de blesser quelqu'un. Or, les requins, comme tous les êtres vivants, ne font que se nourrir lorsqu'ils mangent une proie. Maintenant, je suppose que tu dis ça parce que on parle beaucoup des très très rares accidents qui causent malheureusement le décès de certains surfeurs ou nageurs. Alors bien sûr, c'est dramatique, mais je dirais deux choses. D'abord, c'est très très rare. Le requin, contrairement à nous les hommes, se trompe très rarement. Il se trompe une centaine de fois par an dans le monde. Et simplement, après s'être trompé, il relâche le surfeur ou le nageur, parce que nous ne faisons pas partie des proies des requins. Si nous étions au menu des requins, c'est tous les jours qu'il y aurait des accidents, des dizaines d'accidents, parce qu'il y a des milliers de moments où il y a des rencontres hommes-requins. Mais on peut comprendre que le requin se trompe de temps en temps, lorsque l'eau est trouble, lorsqu'il est dans une situation où tous ses sens ne lui permettent pas de véritablement voir qui est en face de lui. Et à ce moment-là, il peut se tromper. Il y a eu récemment des accidents, à La Réunion en particulier, qui ont été très médiatisés. Mais ils n'auraient jamais dû avoir lieu, parce que les gens n'auraient pas dû se trouver dans l'eau, dans cet endroit-là, à ce moment-là. Le requin, contrairement à beaucoup d'animaux marins, a peur des hommes. Il s'en méfie. Et la difficulté, pour nous plongeurs, c'est justement de les approcher lorsqu'on les voit dans l'eau. Parce que très rapidement, lorsqu'il est identifié, le plongeur, il fuit. C'est toujours par méprise que l'accident arrive. Chez nous en France, il y a chaque année 150 accidents de chasse, dont 30 mortels. Ça veut dire que nous nous trompons beaucoup plus que les requins.
Marjorie est allée voir sur Internet quel était l'animal le plus meurtrier. Eh bien, c'est le moustique, bien sûr. Avec 725 000 victimes par an, suivi par... Le deuxième animal, entre guillemets, le plus meurtrier, quel est-il à votre avis? Je vous ai donné un indice avec les guillemets. Eh bien, c'est l'homme. Oui, madame.
Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi le cœur des enfants va plus vite que celui des adultes. Merci, au revoir.
Le professeur Jean-Noël Fabiani va te répondre, Lucie. Vous êtes chef de service de chirurgie cardiaque à l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc, elle vous demande si le cœur des enfants bat plus vite que celui des adultes. C'est vrai?
Bien sûr que c'est vrai. Elle a parfaitement raison. Elle pose une question assez difficile, d'ailleurs. Le cœur d'un enfant, il peut battre à 160 par minute sans problème, alors que le cœur d'un adulte bat à 70 par minute en moyenne.
Donc, c'est carrément plus vite.
En effet, cette différence est importante. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que le cœur est soumis, comme vous le savez certainement, à des nerfs, et en particulier au système qu'on appelle parasympathique et sympathique. Ce sont des nerfs qui sont capables d'accélérer ou de ralentir le cœur. Et là, en l'occurrence, le nerf sympathique a tendance à accélérer le cœur.
Il court de où à où, le nerf sympathique, dans notre corps ?
C'est un nerf qui se trouve le long de la colonne vertébrale.
D'accord.
Et qui innerve non seulement le cœur, mais aussi les artères, mais aussi l'intestin, mais aussi à peu près tous les organes. C'est ce qu'on appelle le système neurovégétatif. À côté de ça, il y a une autre raison. C'est que le cœur d'un enfant est relativement petit et son corps va grossir très vite et proportionnellement plus rapidement que ne grossissent les organes. Si bien que le cœur, pour s'adapter au débit nécessaire à la croissance, eh bien il n'a qu'un moyen, c'est de battre plus vite. Et quand l'organisme va avoir atteint sa taille, entre guillemets, d'adulte, de croisière, eh bien, l'équilibre va se faire entre la taille de l'organe qui est le cœur et la taille de l'organisme, et à ce moment-là, le débit cardiaque va pouvoir diminuer, et puis l'adaptation du cœur ne va pas seulement se faire sur la fréquence, mais sur d'autres éléments, comme la taille du ventricule et sa capacité à recevoir plus ou moins de sang.
Tout ne peut pas dans le corps grandir exactement au même rythme.
En effet, l'organisme globalement, eh bien, il croît un peu plus vite en proportion que chacun des organes. Donc il faut que les organes rattrapent en quelque sorte et se mettent au diapason. Et ça prend du temps.
Un cœur d'adulte, c'est gros comment, à peu près?
Un cœur d'adulte, ça pèse à peu près 350 grammes, si vous voulez.
Et un cœur de nouveau-né?
Ben, ça peut être très petit, c'est un abricot, si vous voulez. C'est tout petit, le cœur d'un nouveau-né. Un gros abricot, mais un abricot.
Le professeur Jean-Noël Fabiani est professeur, justement. Et je trouve que ça nous donne envie de faire médecine, de l'entendre.
givré, innocent, tout figé. C'est l'hiver, en été. Tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré. C'est l'hiver, en été.
De l'été, c'était Étienne Dao, bien sûr, sur France Inter, où vous écoutez Les Petits Bateaux. Noir, c'est noir, chantait Johnny. Eh bien non, noir, ce n'est pas noir, ni blanc, bien sûr, ni gris non plus. Noir, c'est compliqué.
Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 7 ans, et je voudrais savoir comment on fait la couleur noire. Au revoir.
Bonsoir Victor, comment fait-on la couleur noire? Annette Doué, vous êtes restauratrice de tableaux, vous êtes enseignante, et vous êtes experte en authenticité des matériaux de la peinture. C'est vrai qu'on se demande comment on fabrique cette couleur. J'avais envie de dire il y a noir et noir, mais peut-être vous nous le direz.
Oui, alors exactement, il y a plusieurs noirs. Il y a les noirs qu'on trouve directement dans la nature. Le noir le plus courant, c'est celui qu'on va trouver après la carbonisation d'un matériau. Ces matériaux, ils peuvent être d'origine minérale, peuvent être d'origine animale ou encore d'origine végétale.
D'accord.
Alors, minéral, par exemple, le noir qu'on va trouver dans la terre, comme l'ardoise. Et on peut, en le broyant, obtenir un pigment qui sera pas très, très noir intense, qui sera un peu gris, qui sera peu couvrant. Dans les minéraux, c'est à peu près le seul. Et puis, il y a également les noirs animaux. Donc, d'origine animale, vous avez le noir d'os, par exemple. Alors, ce qu'on appelle le noir d'os aujourd'hui, autrefois, c'était le noir d'ivoire. Donc, c'est pas forcément l'ivoire des éléphants, heureusement pour eux, mais ça pouvait être tout ce qui était de provenance de dents ou de défense animale.
Mais c'est blanc, une dent.
Oui, mais quand on le brûle, ça se transforme en carbone. Donc, c'est ce noir de carbone qui, en fait, va être broyé et transformé en pigment noir.
Alors, des dents, des os de quoi?
Des os de...
De sèche.
Alors oui, il y a les os de sèche. Alors l'os de sèche qu'on a brûlé va broyer et donner un pigment, mais vous avez le noir de sèche, qui est l'encre de sèche, qui autrefois pouvait être utilisée liquide, donc comme de l'encre pour l'écriture. Et puis quand on laisse sécher cette encre, on récupère, quand c'est devenu une poudre, le pigment, qui va devenir un noir de sèche en pigment.
Donc de l'ardoise, du charbon, des os.
Et également des végétaux.
Par exemple.
Alors les végétaux, par exemple le noir de vigne, c'est-à-dire qu'on récupère la vigne, on la fait là encore brûler, et ça donne un noir un peu bleuté. Et il y a également les noirs de noyau de pêche, qui donnaient un noir un peu plus rouge.
Alors il y a quelque chose que je trouve sidérant, Annette Douai, c'est comment on s'est aperçu que le noyau de pêche donnait un meilleur noir que le noyau de cerise.
Alors c'est pas une question de meilleur, c'est une question en fait de localisation. Autrefois, on n'allait pas chercher loin ces pigments et surtout, on prenait les matériaux du coin. Dans le sud, où il y avait des vignes, on utilisait évidemment des pieds de vigne. Et puis ensuite, dans le nord, on pouvait utiliser de l'ardoise.
On était, comme sont les locavores, on était locapeintres.
Absolument. Jusqu'au XVIe siècle, avant, on va dire, les échanges internationaux, les artistes, si on remonte à la préhistoire, les artistes, ils prenaient ce qu'ils avaient, évidemment, dans les grottes. Donc, au niveau du noir, c'était simplement le noir de charbon qu'ils trouvaient dans leur foyer. Ou pourquoi pas à proximité des volcans, après les éruptions. Mais ça, c'est le noir, on va dire, pur. Et les peintres ont toujours cherché à avoir des noirs beaucoup plus profonds. J'ai l'exemple du peintre Hokusai, qui est un grand artiste japonais, qui lui dit, pour avoir le noir le plus intense dans ses encres, il mélangeait un noir ancien additionné de rouge, un noir frais additionné de bleu, un noir terne additionné de blanc et un noir brillant additionné de gomme arabique. C'est-à-dire que pour lui avoir son beau noir le plus profond, il mélangeait quatre noirs. Et dans un ouvrage qui a été rédigé par M. Régnier en 1865, qui s'appelle « De la lumière et de la couleur chez les grands maîtres anciens », il écrit « Le noir le plus intense que le peintre ait à sa disposition pour imiter à peu près le noir de l'ombre absolue, c'est un mélange de deux parties d'outre-mer, l'outre-mer c'est du bleu, d'une partie de lac de Garance, qui est un rouge, et trois de bitume, à remplacer par l'oxyde de fer ou du noir de Mars ». Donc en fait, les noirs qu'on trouve, on va dire purs, les noirs de carbone, sont des noirs qui ont des caractéristiques ou de transparence ou d'opacité avec des légères teintes. Mais si on mélange d'autres couleurs, on peut obtenir des noirs beaucoup plus profonds, beaucoup plus intenses, qui seront parfois recherchés par les peintres.
Merci Annette Douai, comme quoi le noir fascine les peintres. À propos, Arte consacre un documentaire à Pierre Soulages, légende de l'art contemporain, grand maître du noir. Ce sera dans 15 jours, le dimanche 22 octobre, dans l'après-midi. Les petits bateaux sont terminés pour ce soir. Nous reviendrons dimanche prochain à 19h30. Nous, c'est Kevin Pelot et Jean-Baptiste Audibert, Marjorie Devoucoux, Eliane Girard, Noël Bréham. Nous vous invitons à venir faire un tour sur le site des Petits Bateaux et à podcaster cette émission. Et nous vous laissons avec Denis Chessou pour La Tulle, mon petit loup.